Tu parles
bla bla bla.
Radio CFVE vous tend ce micro. Écoutez, c'est une interview.
Vous êtes sur Radio CFVE et ça y est, il est avec nous. Clive Lamine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présent avec nous pour les 30 ans du chemin de fer de la vallée de l'Eure. Vous connaissiez donc le chemin de fer de la vallée de l'Eure, Clive Lamine ?
Oh oui.
Comment vous l'avez connu
Simplement, je pense que j'avais... Ça devait peut-être être lors d'une... Est-ce qu'il n'y a pas eu une grande journée avec la Fédération Française de Modélisme ou quelque chose comme ça ? Il me semble. Vous aviez organisé un événement qui était assez important il y a de cela quelques années déjà, au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et je pense que c'était un événement national parce qu'il y avait... Mais si, il y avait tout le monde du modélisme qui était là. Et je me souviens qu'on se réunissait dans une école, il me semble, qui était sur le plateau, un peu plus haut. Après, je me souviens d'une autre journée où je suis venu, où j'ai été longuement interviewé, peut-être d'ailleurs par vous, dans une voiture postale magnifique.
C'était fort possible, Clive Lamine.
Ah, ça oui. Et puis, je me souviens aussi d'avoir longuement photographié tous vos wagons de marchandises, parce que vous êtes la seule association qui s'intéresse aux trains de marchandises et qui les fasse rouler. Alors que vous savez, historiquement, le chemin de fer a été fait pour les marchandises, hein, dès le départ, avec Stephenson en Angleterre. Il ne voulait pas de voyageurs, il disait s'ils montent sur les trains, ils rouleront à la vitesse du charbon. Voilà ce qu'il disait. C'est pas très SNCF d'aujourd'hui, mais c'était comme ça, vous voyez. Les marchandises étaient prioritaires. Donc votre intérêt pour les marchandises est très justifié. Je me souviens bien entendu de la BJ, je me souviens aussi de la locomotive à batterie, je crois, de la Plaine Saint-Denis, et je me souviens de votre locotracteur Moïse, et aussi de votre locotracteur Berlier. Presque réciter tout ce que vous avez, vous voyez, voilà.
Effectivement, on voit que vous avez mémorisé tout ça. Alors Clive Lamine, on va parler un peu de l'histoire du chemin de fer. C'est une invention britannique, hein, c'est ça ?
Ah, ça c'est ce que disent les historiens dont je fais partie, donc oui. je ne veux pas cracher dans la soupe, mais réellement le chemin de fer est très ancien. Parce que vous savez que les voies romaines avaient des ornières, les voies étaient en marbre, et les ornières guidaient les véhicules. Le chariot romain n'avait pas d'essieu orientable à l'avant. Vous savez ça, les chariots romains étaient comme les wagons de marchandises aujourd'hui, avec deux essieux parallèles. Et alors les voies romaines étaient des voies marbrées avec deux ornières, qui étaient un écartement extrêmement précis, écartement qu'on retrouvait même dans les villes romaines pour les passages piétons, avec des dalles qui permettaient de traverser les rues et de ne pas se tordre les chevilles dans les ornières. Donc le chemin de fer remonte à l'Antiquité. Au Moyen-Âge, il y avait quand même beaucoup de chemin de fer dans les mines. C'était des chemins de bois, d'ailleurs, avec des chevaux. Mais le chemin de fer moderne est né en Angleterre vers 1801 avec Trevithick. C'est le premier qui a eu l'idée de mettre une machine à vapeur sur des rails. En somme, d'inverser. La machine à vapeur était fixe jusque-là, et là, on la rendait mobile en la mettant sur un wagon. Vous savez qu'à la Révolution française, il y avait déjà au Royaume-Uni 750 machines à vapeur fixes dans les usines. Autrement dit, la Révolution industrielle a démarré bien avant le chemin de fer. Mais alors, c'est la Révolution industrielle qui avait besoin d'un transport de masse pour le charbon et les produits finis. Donc, on peut dire que le chemin de fer moderne est anglais, pour un certain temps, mais très peu de temps.
Et ce sont les Anglais qui ont introduit le chemin de fer en France.
Alors oui, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui un transfert de technologie, le mot est affreux, bon, il y a beaucoup de mots actuels. Effectivement, on a fait appel aux Anglais parce que finalement, on ne savait pas construire les locomotives. C'était un des problèmes pour Marc Seguin, c'était la construction des locomotives, il faisait rouler ses trains avec des chevaux, et alors on a fait appel aux Anglais, et c'est Stephenson qui, en se déplaçant en Europe, a imposé peu à peu la locomotive, et aussi l'écartement de 4 pieds et 8 pouces et demi, qu'il avait choisi pour les mines de Killingworth en Angleterre. C'est un écartement donc qu'il a amené avec les locomotives.
Quand on a eu ensuite l'arrivée du chemin de fer en France, il s'est développé petit à petit parce que c'était une révolution, hein, Clive Lamine. La voiture n'existait pas encore, l'aviation encore moins. Donc ça a vraiment été une révolution. On a construit énormément de lignes de chemin de fer.
Oui, vous savez-vous que le chemin de fer permettait de faire en heure ce qu'on faisait en journée. Le chemin de fer allait 24 fois plus vite que la diligence. Ça veut dire que si vous vouliez aller de Paris à Marseille, il vous fallait à peu près à l'époque 20 jours. Et 20 jours retour, donc pour faire une interview comme vous faites en ce moment, sans Teams, eh bien effectivement, il vous aurait fallu 40 jours d'absence. Voyez. Alors le chemin de fer permet de faire le trajet Paris-Marseille en 20 jours. Aujourd'hui, c'est en 3 heures. Le chemin de fer d'aujourd'hui ne va que 7 fois plus vite que le chemin de fer des débuts, mais le chemin de fer des débuts allait 24 fois plus vite que la diligence. Le grand progrès, c'est bien le chemin de fer qui fait faire un bond immense en matière de vitesse. Dans le fond, regardez, les invasions de Jules César dans la Gaule, ça se passait en années. Vous voyez, c'était pire que la guerre d'Ukraine au point de vue lenteur de mouvement, parce qu'évidemment, les troupes se déplaçaient à pied. Or, la voie romaine permettait déjà de doubler la vitesse par rapport à des sentiers classiques, vous voyez. Donc la voie romaine permettait d'aller vite. Les albums d'Astérix et Obélix ne sont pas faux. Vous savez, ils prennent des autoroutes pédestres, mais c'était à peu près ça, vous voyez. Alors, le chemin de fer donc, amène d'une part la vitesse, 24 fois plus vite, et d'autre part la masse. Un cheval tirait à peine 300-400 kilos sur les mauvaises routes de l'époque. Les premières locomotives tirent des trains d'une centaine de tonnes.
En effet, Clavier-Amine. Alors, on a eu sur le développement du réseau ferré. Après, on a eu le plan Fraissinet. Alors, ça concerne quoi au juste ?
Oui. Alors, le plan Fraissinet est une curieuse aventure. Ça date de 1878. C'est Gambetta qui est président de la République. C'est un homme, je dirais, assez socialisant. Il veut nationaliser. Il veut donc effectivement, je dirais, faire financer par l'État les transports en France. Et il propose un plan qui devait réaliser à peu près 9000 km de voies ferrées dans des régions complètement, comme on disait à l'époque, enclavées. Enfin, on dit ça aujourd'hui. Vous savez, des régions de montagne, des régions non industrielles, des régions agricoles. Et ces lignes sont donc votées, elles sont même construites, mais elles ne sont jamais rentables. Et c'est bien la plupart de ces lignes-là qui ont fermé et qui aujourd'hui, même encore, on appelle ça les petites lignes, n'est-ce pas ? Il y a les lignes de desserte fine du territoire. J'y suis en langage technocratique, je ne suis pas encore bon. Donc ces fameuses LFDT sont à l'époque déjà... À la fin du Second Empire, commencent déjà à être déferrées parce qu'il n'y a aucun rendement. On croyait à l'époque que le chemin de fer créait la richesse. Réellement, il ne faisait que la transporter, de là où elle était jusqu'à là où elle était. Mais le chemin de fer n'a jamais rien apporté au Massif central. Il y a eu des compagnies comme le Grand Central qui ont eu des quantités de lignes entre Lyon, par exemple, et l'ouest du Massif central, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc le plan Fraissinet a été considéré comme une catastrophe, et aujourd'hui encore, c'est dans la mémoire des dirigeants. Il y a eu le Fraissinet d'ailleurs des canaux aussi, parce que les canaux étaient un moyen de transport de marchandises qui était très utilisé dans la France de l'époque. Donc voilà, le plan Fraissinet a été peut-être ce qu'il fallait faire sur un plan théorique, mais pas du tout sur un plan financier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on utilise pour le chemin de fer deux langages, soit le langage A, comme je dirais A, c'est comme argent, c'est-à-dire le chemin de fer doit rapporter, ce qui pour moi est une aberration, soit le langage B comme bienfait, c'est-à-dire que le chemin de fer devrait être un bienfait comme la justice, l'éducation, si vous voulez, ou la santé, c'est-à-dire que ça devrait être fait par l'État. Donc moi je suis vraiment pour un chemin de fer d'État, pour un chemin de fer service public. Guillaume Pépi était d'accord tout à fait avec moi, mais il me disait que moi seul je pouvais le dire, mais pas lui. Mais réellement, la seule manière de s'en sortir, c'est que le chemin de fer soit comme l'éducation nationale dont je fais partie, c'est-à-dire un service d'État, si vous voulez, un service public. Et on cesse de parler d'argent. Le chemin de fer coûte cher, le chemin de fer peut difficilement rapporter de l'argent.
C'est pour ça, peut-être, qu'à l'issue du plan Fraissinet, vous avez dit, il y a des lignes qui ont périclité, mais il y a aussi l'invention de l'automobile qui a provoqué toute la fermeture de ces petites lignes.
Je dirais, l'automobile, sans doute... mais certainement l'habitat dispersé, ce qu'on appelle les lotissements. Quand les citadins se sont mis à vivre à la campagne, c'est là qu'il a fallu des automobiles en quantité, parce qu'ils vivent de préférence là où il n'y a pas de gare, là où il n'y a pas d'école, là où il n'y a pas de commerce, là où il n'y a que des pavillons qui s'alignent les uns derrière les autres. Et là, si vous n'avez pas de voiture, vous êtes fichu. Et aujourd'hui, en France, tous les matins, 20 millions de Français se lèvent, prennent leur petit déjeuner, vont dans un garage bien chauffé, trouvent la petite voiture et s'en vont travailler. Ils vont pas aller se geler les fesses sur un quai de gare, attendre un train qui est supposé être en retard. Ce qui d'ailleurs n'est pas vrai. Hein. Mais enfin bon, voilà, autrement dit, c'est bien l'habitation dispersée la fuite en dehors des villes et des villages qui a fait que le chemin de fer, finalement, s'est trouvé, à mon avis, attaqué. Alors, attaqué, oui, par l'automobile, forcément, vous avez raison, puisque le seul moyen de transport, quand on est isolé, c'est l'automobile ou la marche à pied. Ah, il paraît que, du moins, d'après Anne Hidalgo, que le vélo, c'est pas mal. Mais je vois mal les Français pédaler pendant 50 km, surtout en hiver. Moi, je l'ai fait quand j'étais gamin dans la Franche-Comté pour aller au lycée. Mais c'était une atrocité. Ça m'a dégoûté du vélo à vie et ça m'a fait amoureux des voitures, et même des grosses voitures. Vous voyez. Donc, ça a eu l'effet inverse de ce qu'il fallait.
En effet, Clavin Lamigne. Justement, sur ce plan Freycinet, l'automobile a provoqué la fermeture de beaucoup de petites lignes. Mais cependant, aujourd'hui, on voit comme la ligne où on est sur Passy-sur-Eure, c'est la ligne qui reliait Rouen à Orléans. Et on a une portion de ligne qui avait été fermée et qui aujourd'hui a été réouverte. Et on voit qu'il y a des petites lignes comme ça aujourd'hui qui jadis étaient fermées et qu'on est en train de réouvrir. Peut-être parce que quand on va sur le périphérique, on voit qu'il y a beaucoup de voitures, il y a trop de voitures sur les routes maintenant.
Oui, vous savez, le mouvement du chemin de fer depuis un siècle, depuis 1920, c'est là que ça a commencé, c'est la fermeture continuelle des lignes et du réseau. Savez-vous qu'en 1933, il y avait en France 12 511 gares en service, exactement 1933, j'ai fait un bouquin, vous savez, sur les gares et les lignes de France. 1933, il y avait 12 511 gares, aujourd'hui, il y en a 2800. C'est-à-dire que la France a perdu quasiment les trois quarts de ses gares. Et elle n'est pas seule, dans le monde entier, c'est comme ça. C'est le seul pays qui ne perd pas de gares, c'est l'Afrique, mais pour la bonne raison qu'il n'y en a pas eu. Donc, vous voyez, il n'y a pratiquement rien eu en Afrique, mais les pays qui ont eu un réseau ferré confortable n'ont pas cessé depuis un siècle de perdre leur chemin de fer. Oui, pour par l'automobile, plus que l'avion, mais l'avion a quand même pas mal contribué, et aussi, mais surtout, par l'habitat dispersé et la mort des villes, finalement.
Et ces projets de réouverture, Clive Elmine, réouverture de ligne, c'est la volonté des politiques.
Les trains du futur, d'ailleurs les trains du futur antérieur. Il y en a plein, même Elon Musk y est allé de son Hyperloop, que d'ailleurs François Lacôte, la SNCF, appelait l'entourloop. Mais beaucoup de ces trains, surtout en Californie, par exemple, sont faits dans le seul but de récupérer, d'empocher des subventions, vous voyez. Mais ces trains du futur, oui, ces trains légers sur rail. Alors, nous revoilà avec le FNC ou avec les autorails à deux essieux de Decauville, Berlier et autres. Dans les années 20, le problème était déjà posé et on faisait des trains du futur très légers. Alors, on les réinvente aujourd'hui. Alors, il y en a un qui m'amuse beaucoup, c'est celui qui est sur pneus, qui peut quitter la route ou aller sur les rails et repartir, et surtout en autonomie complète. Moi, je veux bien. Ces trains autonomes sans conducteur, qu'est-ce qui va passer à la tronçonneuse, les branches d'arbres et les souches qui sont entre les rails? Ah, et là, il n'y a personne. C'est conçu par des gens qui raisonnent comme des constructeurs d'autobus, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils disent, finalement, ah ben, la route, ce n'est pas nous, hein. c'est les autres. Et eux, ils ne prévoient pas financièrement le coût du chemin de fer. Mais vous-même, vous êtes bien placé dans votre association pour savoir qu'une ligne de chemin de fer, l'entretien quotidien coûte fortune. Ou alors vous vous dévouez donc gratuitement pour passer la tronçonneuse et rectifier les voies. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Mais votre ligne m'intéresse beaucoup parce que Rouen-Orléans, c'était un des rares essais de lignes qui ne soit pas conforme à la pensée officielle, c'est-à-dire partir de Paris, être radial. Donc c'est une ligne qui est intéressante dans son histoire. Et je crois avoir raconté pas mal de choses sur cette ligne dans un article, je ne sais plus lequel, sur mon site Train Consultant, mais j'ai parlé de cette ligne, vous voyez, ces lignes qui ne passaient pas par Paris, ces compagnies transversales. Elle est extrêmement intéressante. Alors aujourd'hui, vous exploitez combien de kilomètres?
On exploite une quinzaine de kilomètres, donc entre Breuil-Pont et Cocherelle, et on allait jusqu'à la Croix.
Et quel est votre budget? Combien vous coûte-t-elle chaque année?
Alors ça, il faudrait demander au trésorier, mais ça, je n'ai pas en mémoire.
Ouais. Moi, je vous dis, il vaudrait mieux que vous ayez une route qui coûterait bien moins cher. Une route, ça coûte moins cher, parce que vous laissez moins de travail. Seulement, évidemment, ça transporte moins, ça bouffe de l'énergie. Je reconnais que votre budget en énergie doit être très restreint. Voilà.
Sur cette ligne, Clavin Lamigne, il y a eu des autorails qui ont circulé.
Écoutez, moi, je ne connais que votre magnifique ABJ. Est-ce que les ABJ circulaient à l'origine sur la ligne? Je ne crois pas. Je ne le pense pas parce que l'ABJ était un autorail de grande capacité et surtout capable de performances extrêmement intéressantes. Les ABJ, Louis Renault les fait en 33-34 parce que le VH n'est pas suffisant, mais c'est conçu comme un autorail puissant et rapide. À l'époque, le 120, c'est la vitesse des trains express, vous voyez. Donc je pense que sur la ligne à l'origine, on peut imaginer des petits autorails du genre de Dion-Bouton, certainement, qui étaient des sortes d'autobus sur rail, à mon avis, c'était quelque chose comme ça. Mais, ou alors, pas d'autorail du tout, à l'époque, des trains à vapeur classiques. Hein. Le réseau a d'ailleurs été intégré au réseau de l'État, je crois, non, à un moment donné.
Oui, 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 tout à fait. C'était une ligne privée, et ensuite, ça a été récupéré par le réseau de chemin de fer de l'État, oui. Oui.
Absolument, vous voyez. Donc, alors, l'État était un grand amateur d'autorails. Les petits autorails, l'État en avait pas mal, vous voyez. Les petits autorails, comme les charentaises, voilà. Vous voyez, ces petits autorails tout à fait légers.
Clavé Lamigne, si on agrandit un peu l'histoire de cette ligne Rouen-Orléans, il y avait un projet aussi de prolongement au-delà de Rouen. Vous aviez su ça ou pas?
Écoutez, j'ai dans la tête le plan des 3 ou 4 gares de Rouen. La vôtre, la gare d'Orléans, dite d'Orléans à l'époque, donc elle est à Rouen. Mais prolongement, je ne pense pas. Pas dans la mesure où, au-delà de Rouen, on retombe à l'époque dans le chemin de fer de l'Ouest, qui tenait évidemment forcément à ses emprises, qui devient l'État, et un peu plus loin, il y a le chemin de fer du Nord, qui est là, qui lui, la partie nord-est de Rouen, vous voyez, et le Nord n'était pas prêt à céder un pouce de son territoire. Je n'ai jamais entendu parler d'un prolongement, je pense plutôt que la ligne, simplement, a été intégrée au réseau de l'État, et elle a perdu, par concurrence avec Paris, elle a perdu son rôle radial, finalement. Vous voyez, je pense que les gens de Rouen avaient intérêt à passer par Paris, ensuite pour aller à Orléans, vous voyez, Orléans et au-delà, parce que Rouen-Orléans, c'est quand même au-delà de ça.
Vous avez
c'est une très très belle ligne, hein. Vous savez, c'est une très belle ligne, et vous en avez fait quelque chose de remarquable.
Vous avez parlé de ces gares à Rouen, parce qu'effectivement, il y avait une gare pour chaque compagnie, hein, jadis, quand la SNCF n'existait pas.
Chacun maître chez lui, et les vaches sont bien gardées. Effectivement, Rouen, c'est un très bel exemple de ville qui possédait jusqu'à 4 ou 5 gares, vous voyez, qui étaient séparées les unes des autres et qui étaient pour la plupart sur la rive gauche, à l'intérieur de la boucle. Il n'y avait sur la rive droite, finalement, que la fameuse gare État de Rouen, rive droite, qui a été créée, finalement, après la fusion entre l'État et l'Ouest, vous voyez, qui est une très très belle gare d'ailleurs. Mais votre gare à vous, aujourd'hui, je crois que les bâtiments existent toujours, pour moi. Ils existent toujours, mais ils ont pris une autre destination. Je ne peux pas, avec mon ordinateur, manipuler, mais je pourrais sortir la carte d'époque de Rouen, et en principe, cette gare, je devrais pouvoir la trouver.
La gare de Rouen-Orléans, en effet, a été démolie.
Elle
a été démolie, oui. La gare de Rouen-Orléans a été démolie, et aujourd'hui, on a Rouen, rive droite, uniquement. Voilà. Clavé Lamigne aussi, on a plein de radiales qui venaient se raccorder sur cette ligne. C'est là qu'on voit la densité du réseau dans le temps, puisqu'on avait aussi une ligne qui faisait Passy-sur-Eure, Gisors-Bois-Geloux, et qui allait même sur Beauvais. Tout un réseau. Et puis, on avait aussi une ligne qui faisait de Louviers jusqu'à Évreville. Alors là, c'est pareil, Évreux avait plusieurs gares aussi. On ne mélangeait pas les torchons et les serviettes, en fait. Hein.
Oui, j'ai fait une carte de France des villes ayant plusieurs gares. Et elles sont assez nombreuses, vous voyez. Je peux, si vous voulez, si ça vous intéresse, d'ailleurs vous l'envoyer, j'ai dû la publier dans un article aussi, vous voyez, où les villes multigares sont extrêmement nombreuses. Alors je crois que Rouen est une des mieux dotées, mais Bordeaux, on en avait, sur les 14 gares de Bordeaux, il y avait au moins 3 ou 4 compagnies, vous voyez.
14,
donc,
ah oui.
Les gares étaient d'ailleurs très 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 nombreuses, vous voyez. Lyon avait jusqu'à 8 ou 9 gares, vous voyez, à une certaine époque, avec autant de compagnies différentes, vous voyez.
Clavé Lamigne, quand on voit la progression du chemin de fer aujourd'hui, alors il y a beaucoup de petites lignes qui ont fermé, on en parlait, mais aujourd'hui il y a la création de lignes à grande vitesse qui veut faire la concurrence à l'avion.
Alors, quand on réduit le réseau aux lignes à grande vitesse, c'est à peu près comme si le réseau routier, vous le réduisiez aux autoroutes. Imaginez qu'en France, on supprime les petites routes, les départementales, qu'on enlève le goudron, qu'on remette de la terre. Hein. Vous voyez, la route est complètement gommée et on n'a plus que des autoroutes. C'est ce qu'on est en train de faire finalement. C'est-à-dire que cette politique de la ligne à grande vitesse, je suis tout à fait pour parce qu'elle a révolutionné le chemin de fer, elle a permis au chemin de fer de survivre, mais elle est extrêmement injuste vis-à-vis de, je dirais, 90% des Français finalement qui n'habitent pas Paris et qui n'ont pas besoin d'aller à Lille en une heure et d'aller à Marseille en trois heures. C'est-à-dire que c'est un réseau qui est devenu terriblement élitiste. Le chemin de fer, au départ, était, je ne dirais pas, Mélenchon dirait mieux que moi, était populaire, mais il a perdu complètement cette popularité. Ce côté transport de masse a disparu, finalement, vous voyez. Quand on regarde les chèques des années 1910-1920, ces trains en tout sens, mais absolument en tout sens. Aujourd'hui, c'est devenu très pauvre, mais c'est magnifique, je reconnais. Je suis reconnaissant au TGV, parce que quand j'ai un voyage à faire, grâce au TGV, je me retrouve plus tôt dans mon lit le soir. Le TGV n'est pas un train dont on rêve, mais c'est un train qui permet de rêver. Parce qu'on se couche plus tôt chez soi, on arrive beaucoup plus tôt, mais à condition d'habiter Paris. Vous habitez même déjà en grande banlieue, ça ne compte plus. Vous perdez déjà une heure ou deux pour compléter. Vous habitez près de Paris et près d'une grande gare. Moi, je suis juste entre les gares du Nord et les gares de l'Est, donc c'est très bien. Mon lit est très bien desservi.
Clavier Migne, on va terminer cette interview en vous remerciant d'avoir participé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter avant que nous nous quittions pour les 30 ans du chemin de fer de la Vallée de l'Eure, ou encore une chose sur les trains que j'aurais pas
évoqué? Je voulais dire à votre association, comme on dit vulgairement, de ne rien lâcher. Je suis à la Commission nationale des monuments historiques, vous savez, une commission, ça fait des lois, hein. C'est pas comme un comité ou un conseil, hein. Une commission, ça fait des lois. Le président Macron nous a écoutés pour Notre-Dame, on lui a dit, on reconstruit l'identique, il a dit, ah bon, il voulait faire autre chose. Alors cette commission veille sur tout ce qui est fait actuellement, d'ailleurs par les associations. N'hésitez pas à classer, est-ce que la gare de Passy-sur-Eure est-elle classée monument historique? Vous auriez intérêt. Vous avez du matériel roulant qui est classé, je crois, déjà, s'il me semble. Sinon, il faut le faire. Pour votre association, c'est important de classer le matériel roulant comme monument historique, parce que ça vous le protège. On ne peut plus l'aliéner, on ne peut plus l'exporter, et vous pouvez avoir des aides de la part de l'État. Donc, moi, je vous dis, continuez. Votre travail est merveilleux et magnifique, et pensez monument historique.
Merci beaucoup, Clavier Migne, d'avoir participé à cette interview pour les 30 ans du chemin de fer de la Vallée de l'Eure. Et puis,
j'espère que vous aurez 2-3 personnes pour l'écouter, oui.
Oui, il y a du monde pour écouter. Puis en plus, ce sera podcastable après. Donc voilà.
Et vous allez le diffuser, voilà.
Alors, juste quelques mots sur vos ouvrages. S'il y en a qui souhaitent. Vous avez fait beaucoup d'ouvrages, mais quel est le dernier qui est sorti
Je ne sais plus, j'en ai fait plus de 200. Je crois que c'est La France de gare en gare, il me semble, aux éditions Ouest France. Donc c'est patrimoine chez vous. Sinon, d'accord, je continue à écrire sur ce qu'on appelle un blog, hein, sur mon site web. Et en ce moment, je suis en train de participer à la création de modèles réduits en 1, en échelle 1, des gros modèles réduits. Après Altaïa, je vais faire d'autres modèles réduits, vous voyez. Donc, je suis toujours actif. Je ne m'arrêterai que le jour de ma mort. Comme Molière, je claquerai sur scène.
Eh bien, on vous souhaite le plus tard possible, Clavier Migne. Merci beaucoup.
Merci.
Radio CFVE, la radio des 30 ans du chemin de fer de la Vallée de l'Eure.